Université Paris 1, Panthéon Sorbonne.
Toutes les réflexions que nous avons menées sur ces deux journées convergent vers la cybercriminalité vue du point de vue de l'être humain. Cybercriminalité, cyberdélinquance, du point de vue de l'humain, nous sommes là sur le terrain à la fois de la liberté et de la responsabilité, à savoir la cybercriminalité ou la cyberdélinquance qui est le fait de l'internaute, ou encore celle qui porte atteinte à ses droits et à ses libertés. Nous avons pu constater au cours de ces différentes tables rondes qui se sont succédées depuis hier que le citoyen qui est utilisateur final joue un rôle clé dans l'émergence, la construction et la régulation du cyberespace. Cette problématique, je le rappelle encore, est transversale aux travaux que nous avons menés. En effet, la cybercriminalité a été envisagée tant du point de vue des institutions, des administrations, du point de vue du juge, du point de vue du monde de l'entreprise. Il nous reste à envisager de façon centrale le point de vue de l'internaute, ce qui concerne ses libertés et ses responsabilités, ses libertés et l'articulation avec l'ordre public. Cette thématique va donc servir de fil directeur à cette table ronde où nous allons aborder un certain nombre de sujets comme l'usurpation d'identité en ligne, comme les informations communes, les cyberactions visant l'humain ou encore le téléchargement illégal. Je vais ouvrir cette table ronde en passant la parole à Georges Chatillon. Faut-il le présenter ? Au terme d'une belle et longue carrière, Georges Chatillon, je le rappelle, est le fondateur du master droit du numérique administration entreprise. Et il va intervenir dans cette table ronde sur le thème suivant, les informations communes, usus fructus abusus, le vieux modèle du code civil peut-il encore servir ? Georges Chatillon, je te passe la parole.
Merci beaucoup, Irène. Je pense qu'il est besoin aujourd'hui de regarder de nouveau quel est le statut juridique de ce qu'on appelle l'information sur l'Internet et bien entendu de savoir ce qu'est une information, ce qu'elle pourrait être. Est-ce qu'on peut faire une catégorie parmi les informations ? En anglais, c'est le terme « data » qui est utilisé. Le terme data est assimilé en définitive à un petit bout de programme informatique, à quelque chose qui est encore plus neutre qu'un minuscule algorithme. Et donc c'est quelque chose qui ne permet pas de rendre compte de ce que nous faisons en tant qu'êtres humains. Alors, de même que les biens peuvent être communs, les informations peuvent être communes. Le droit d'auteur connaît bien ce qu'on appelle les Creative Commons. Le statut de ces Creative Commons, le statut juridique est très simple. L'utilisateur peut reproduire, distribuer et communiquer l'œuvre. Il peut aussi la modifier. Il doit toutefois spécifier la paternité de l'œuvre de la manière indiquée par l'auteur ou le titulaire de droit. Si l'utilisateur modifie, transforme ou adapte cette œuvre, il n'a le droit de distribuer la création que sous un contrat identique ou similaire à celui-ci. Alors, le statut juridique des logiciels libres correspond à ce régime. Selon le droit d'auteur en vogue, un auteur de logiciel est considéré comme son propriétaire. De ce fait, il peut l'utiliser pour son propre usage, usus, le donner en location et en retirer le fruit, fructus, ou le vendre, abusus. Il peut aussi le détruire, car dans notre conception, un logiciel est une chose. Les démembrements du droit de propriété du Code civil, usus, fructus, abusus, sont des inventions juridiques du droit romain. Cette théorie n'a pas cessé de montrer son utilité juridique et sociale, au point que beaucoup de personnes non juristes connaissent les trois états de la propriété, usus, fructus, abusus. Cependant, la vision classique du code civil et du droit de propriété repose sur un individualisme de l'homme et sa suprématie sur la matière, laquelle est inanimée. Il n'existerait qu'une catégorie de sujets du droit, l'homme individu. Cette conception ne peut admettre les phénomènes comme des réseaux sociaux, les jeux en ligne avec des centaines de milliers de joueurs, les mouvements spontanés des internautes lorsque le besoin se fait sentir. Lorsque les réseaux sociaux se mobilisent, les individus échappent à leur sort juridique de sujet du droit et composent des fratries qui trament des opinions, font valoir des idéologies inattendues, tissent des résistances et réalisent des activités. Les réseaux Internet sont par nature des ensembles de données instables, mouvantes, éphémères. Les réseaux en ligne sont modifiables et mutants à volonté. N'importe qui, à peu de frais, a le droit de créer un site, un blog, un forum et de le faire disparaître pour le faire renaître. La créativité en ligne est sans limite. Les réseaux Internet sont comme l'eau, le vent, les nuages, des filets, des marais, des mares, des fleuves. Comme tel, les flux de données ne sont pas gouvernés exclusivement par la raison humaine, mais par des forces sociales instables, mouvantes, éphémères. Les règles de droit agissent comme des stabilisateurs de forces sociales, comme des arpenteurs qui déterminent les limites, comme des juges qui donnent raison ou tort. Entre l'arpenteur qui établit les limites d'une propriété individuelle et les groupes d'internautes qui volent comme des passages d'hirondelles, franchissant les frontières, les fleuves et les villes, le droit doit s'interroger sur des catégories nouvelles de régime juridique des biens et des personnes et doit tenir compte des communautés de personnes et des communautés de biens. L'opposition entre le droit de propriété individualisé et les biens communs est claire. D'un côté, un sujet, personne physique ou morale, titulaire d'un droit exclusif, parfaitement individualisé et unique, souverain, ayant droit de vie et de mort sur sa propriété et gérant ses intérêts de propriétaire en fonction de son strict intérêt personnel subjectif. Ainsi, le propriétaire d'une œuvre d'art peut la détruire. Le titulaire d'un brevet pharmaceutique peut décider de ne pas l'exploiter, recelant ainsi des médicaments utiles à tous. De l'autre, un ensemble de biens partageables, des auteurs capables de diffuser leurs produits ou services et d'accepter qu'ils soient modifiés, enrichis et à leur tour diffusés, communiqués, partagés. Le statut juridique de ce qu'on appelle les informations mérite une réflexion. Par information, on désignera toute donnée produite par un acteur humain et ou par une machine, bénéficiant d'une forme intelligible ou susceptible de l'être, communiquée à une autre personne et ou à une machine, quel que soit le support. Il existe par nature plusieurs genres d'informations. Alors, premièrement, les informations de nature individuelle. Elles sont susceptibles de personnaliser un individu et on les nomme le plus souvent « données personnelles ». Ces informations ne concernent pas seulement l'individu qu'elles désignent, mais aussi la société, puisqu'elles permettent d'individualiser cet individu parmi tous les autres. Il n'empêche que les informations relatives à cet individu sont sa propriété. Il peut en user, en retirer des fruits et, sous certaines conditions, céder l'usage de certaines désignations comme le nom de famille. Ces informations sont un bien individualisé, partageable et modifiable sous conditions. Deuxièmement, on trouve les informations de nature sociale, susceptibles de permettre le fonctionnement des sociétés dans tous les domaines. Ces informations ont pour objet de tisser des échanges entre les individus, les groupes, les familles, afin que les membres des sociétés puissent faire fonctionner les sociétés dans lesquelles ils vivent et meurent. Les informations dites publiques en font partie, mais aussi les informations divulguées par les médias, journaux, radios, télévisions, blogs ouverts, forums ouverts, etc., par les entreprises commerciales ou autres, les partis politiques et syndicats, etc. ces informations sont un bien commun, puisqu'elles permettent le fonctionnement des sociétés. Sans ces informations, les sociétés s'écroulent. Je pense que l'objectif de chacun, comme notre objectif et intérêt commun, est que nos sociétés subsistent. Autrement dit, une des questions essentielles que nous devons nous poser, c'est de quel genre d'informations nous avons besoin pour subsister et quel doit être le statut juridique des informations qui permettent aux sociétés de subsister, voire de survivre. Et pour moi, selon moi en tout cas, ces informations sont un bien commun. Personne ne peut s'approprier une société, ni un individu, ni un État, ni un groupe. Les informations sont indispensables, celles de nature sociale, au fonctionnement de la société. Elles appartiennent donc à la communauté des gens qui vivent au sein d'une société. Et dans ces conditions, elles sont un bien commun. Elles peuvent être partagées, modifiées, enrichies, divulguées, diffusées, distribuées, à condition de citer l'auteur des dites informations et de ne pas en faire une source de profit individualisé sans que le profit soit partagé avec l'auteur. Le fait que ces informations sociales sont un bien commun n'empêche pas qu'elles puissent être achetées, vendues ou que les modifications ne puissent pas générer des profits. Mais dès qu'elles sont diffusées à titre gratuit ou onéreux, elles peuvent être partagées, reproduites, enrichies, modifiées, à condition de citer l'auteur. On peut donc les diffuser, usus, les louer, fructus, et les céder, abusus. Troisièmement, on va trouver les informations de nature relationnelle, susceptibles de permettre l'échange et la participation des individus, familles, groupes, et ayant pour objet de favoriser la communication et l'intercommunication afin que les membres des sociétés puissent parler entre eux, échanger des opinions, des commentaires, des réflexions, jouer, se donner du plaisir ou se critiquer. Ces informations sont un bien commun éphémère. Elles ne sont pas susceptibles d'appropriation par l'un des auteurs, puisqu'elles ont pour principale fonction de permettre l'existence même de chacun des membres de la société. Donc tout à l'heure, on a vu le type d'informations qui autorisent, qui permettent, qui sont la condition minimale de fonctionnement des sociétés. Ce sont les informations de nature sociale. Il n'est pas question que chacun puisse s'approprier ce type d'informations indéfiniment. Et quand je vois que le droit d'auteur réserve pendant 70 ans, s'agissant de la gestion des droits, la propriété d'une œuvre qui peut être utile à tous, en particulier, bien sûr, les biens du savoir et les biens qui permettent l'information, on ne peut que se demander ce qui peut se passer. Que sera la société actuelle dans 70 ans? Que sera l'Internet, même pas dans 70 ans, mais dans 10 ans? Personne ne peut le savoir. Il est évident que la réponse à cette appropriation par certains des informations indispensables à la société, c'est en partie ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux sont un phénomène absolument incontrôlable à l'heure actuelle. Donc, les informations de nature relationnelle permettent l'existence de chacun. Sans l'intercommunication, personne n'existe. C'est évidemment le syndrome de l'isolement, voire de l'incarcération. Donc, ces informations ont pour objet de favoriser la communication et l'intercommunication afin que les membres des sociétés puissent parler entre eux, échanger des opinions, on l'a vu, etc. C'est donc un bien commun éphémère. Elles ne sont pas susceptibles d'appropriation par l'un des auteurs, puisqu'elles ont pour principale fonction de permettre l'existence même des membres de la société. Elles ne peuvent être achetées ou vendues, abusus, ni louées, fructus. Leur existence est éphémère, puisque leur durée de vie correspond à leur fonction. On peut parler longtemps, mais pas indéfiniment, etc. Enfin, il y aurait un quatrième type d'information, les informations privées ou secrètes. Ces informations n'ont pas pour vocation d'être mises sur la place publique, médias en tout genre et disponibles sur tout support. Elles restent le bien commun des personnes qui les produisent et les partagent. Si ces informations étaient diffusées, elles seraient susceptibles de voir leur nature transformée et ainsi de devenir par mutation des informations de nature individuelle, sociale ou relationnelle. Les modèles légaux susceptibles d'être appliqués à la diffusion de l'information sont dépendants de la nature de l'information. Rappelons que les informations peuvent bénéficier d'une valeur individuelle, sociale, relationnelle ou privée secrète. Les informations de nature individuelle ne font pas l'objet d'une diffusion quelconque sans l'accord express de l'intéressé ou parce que l'individu est obligé de délivrer ses informations du fait des exigences de la loi, des rapports contractuels ou de la liberté individuelle de communication. Les informations de nature sociale, on l'a vu, sont des biens communs dont on a examiné plus haut le régime juridique. Les informations de nature relationnelle ne rentrent pas dans les schémas économiques accompagnant l'exercice du droit de propriété ni les informations de nature privée secrète. Parmi les informations de nature sociale, on trouvera les œuvres d'art, l'édition, le cinéma, les spectacles vivants, le chant, la musique, la danse et tout ce qui est désigné par l'appellation de beaux-arts, à côté bien sûr des informations permettant le fonctionnement des sociétés comme celles de nature juridique ou bien entendu celles de nature économique ou celles qui autorisent et permettent le savoir et donc l'échange du savoir entre les individus. Alors bien sûr, et je prends l'exemple des beaux-arts parce que les œuvres d'art, les beaux-arts, ont incontestablement pour objet de permettre le fonctionnement des sociétés. Mais même chose s'agissant des cours qu'une institution peut délivrer. Même chose s'agissant des commentaires qu'un certain nombre de médias peuvent faire lorsque la plume des journalistes ou bien les rapports sont tout à fait indispensables au fonctionnement des sociétés. Le droit d'auteur classique a parfaitement corrompu la nature sociale de ces informations en obtenant que les auteurs de ces œuvres deviennent des propriétaires souverains individualistes. Autrement dit, c'est un contre tous. L'auteur peut conserver privées ou secrètes les informations sociales relatives aux beaux-arts, mais dès que son œuvre est offerte au public par l'intermédiaire des médias, des musées et autres lieux d'exposition de l'œuvre, cette dernière devient juridiquement un bien commun. Les sociétés de gestion de droits d'auteur, utilisant abusivement le droit de propriété, ont incroyablement corrompu le système légal de la création des œuvres de l'esprit et, de ce fait, la relation même entre l'auteur et l'œuvre et le public, prisonnier d'un label, d'une marque, d'une maison d'édition, de disques ou d'un studio de cinéma. Les auteurs sont devenus des produits commerciaux. Leur personnalité humaine et leurs œuvres s'en sont trouvées dénaturées, perverties. Donc toutes ces sociétés et en général tous les médias qui supportent l'information nécessaire au fonctionnement de la société doivent désormais réfléchir aux conséquences de la confiscation des œuvres de l'esprit pendant 70 ans, c'est-à-dire 2 générations et demie, c'est-à-dire nos petits-enfants. Une majorité d'individus est désormais reliée aux arcanes de la connaissance en ligne. Le savoir est quasiment instantané et à portée de doigt. Les phénomènes irréversibles comme Wikipédia montrent que le savoir est devenu un bien commun, partageable, modifiable. Les régimes juridiques des droits d'auteur doivent s'inspirer de ces formes inédites et les favoriser. Les auteurs et leur public demandent que le régime juridique des œuvres de l'esprit s'enrichisse d'une catégorie nouvelle de droits, celle des informations communes. Je vous remercie.